Ce matin, nous allons poursuivre notre méditation de la première lettre de Pierre et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 22. En Pierre 1, à partir du verset 22, je ferai la lecture dans la Bible du Semeur. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs, l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Vous vous souvenez peut-être de l'introduction qui a déjà été faite de cette lettre, mais pour nous aider à comprendre le message de Pierre, j'aimerais redire quelques mots en rappelant que l'Évangile s'est répandu en Asie mineure, qui est la Turquie actuelle. Des églises ont été fondées et Pierre écrit à ses croyants de ces églises qui sont disséminées dans toute l'Asie mineure. Il leur écrit pour les encourager dans leur foi. Et pour les encourager, il leur rappelle comment Dieu les a sauvés. Il les a sauvés d'une manière incroyable. Et ce salut incroyable provoque des conséquences dans la vie des croyants. Il y a une autre façon de vivre qui convient désormais. Les croyants qui ont été sauvés étaient des personnes qui auparavant pratiquaient le culte des idoles. Ils étaient dans la débauche aussi. Mais maintenant, leur vie nouvelle interroge ceux qui sont autour d'eux. Et cette vie nouvelle entraîne même de l'hostilité de la part de leurs plus proches, de la part de leur famille, de la part de leurs amis, parfois même de la part des autorités. Leur entourage ne comprend pas forcément pourquoi ces gens ont changé de comportement, pourquoi ils ont quitté la religion de leurs ancêtres pour être maintenant dans cette secte chrétienne. Ces croyants d'Asie mineure vivent réellement des pressions sociales. Ils doivent faire face à une forme d'hostilité qui parfois se manifeste par de la maltraitance verbale, parfois par de la maltraitance physique même. Et la lettre de Pierre nous apprend que certains étaient insultés ou accusés injustement, ou calomniés, ou même traités de malfaiteurs. Et souvent, par les personnes qui étaient les plus proches d'elles. Ça pouvait être dans la relation maître-esclave ou dans la relation qu'il y a dans un couple. Les chrétiens sont donc troublés. Ils souffrent de cette situation. Ils vivent peut-être aussi dans la crainte. Et assez naturellement, ils auraient pu être tentés de répondre au mal par le mal. Aux difficultés, certains même pu être tentés de retourner en arrière à l'époque où ils n'avaient pas ces difficultés, quand ils n'étaient pas encore à Christ. Et face à toutes ces pressions qu'ils subissent, Pierre cherche à les encourager. Nous avons vu la semaine dernière que Pierre appelait la communauté chrétienne à être une communauté sainte, à l'image du caractère de Dieu qui est un Dieu qui est saint. Nous avons vu aussi que pour qu'ils puissent tenir ferme dans l'adversité, Pierre appelait ses chrétiens à mobiliser toutes leurs facultés mentales, toutes leurs facultés intérieures. et puis à se mobiliser en vue de marcher dans cette parole d'espérance, de ce salut qui est encore devant eux. Et pour cela, il leur disait, mais il vous faut mener une vie sobre, une vie centrée sur le Seigneur et non plus centrée sur eux-mêmes. Et bien dans le passage d'aujourd'hui, Pierre continue d'exhorter ses croyants et il leur dit trois choses. Il y a trois impératifs que l'on trouve dans le texte que nous avons lu et ce seront aussi mes trois points de cette prédication. Le premier impératif que Pierre donne à ses croyants, c'est « Aimez-vous les uns les autres avec ferveur ».« Aimez-vous les uns les autres avec ferveur », leur dit-il. Il leur donne un deuxième commandement. Il leur dit « Rejetez toutes les formes de méchanceté ». Et il leur adresse une troisième exhortation. Il leur dit « Désirez ardemment le lait pur de la parole ». Or, nous allons voir ces trois impératifs les uns après les autres. Le premier, aimez-vous les uns les autres avec ferveur. Face à ces pressions sociales que subissent les chrétiens, ils auraient pu se laisser aller à la méchanceté. D'abord contre ceux de l'extérieur. Et puis finalement, ils en seraient peut-être venus aussi à se laisser aller à la méchanceté en interne. Parce que le stress ou l'anxiété, ou la peur, souvent entraînent des réactions ou des propos qui sont blessants, qui jugent, qui dénigrent, et qui finalement détruisent au lieu de construire. L'apôtre Pierre invite, si vous voulez, à un changement de regard. Un changement de regard sur ce stress qui est induit par la pression sociale qui est exercée sur ces communautés. Pour lui, il est primordial que l'Église ne se laisse pas contaminer par des comportements qui seraient inadéquats de la part de chrétiens, par des comportements qui seraient en décalage avec une éthique chrétienne. Alors, dans ces versets 22 à 25, il leur dit « Aimez-vous les uns les autres avec ardeur, avec ferveur. » Et dans le même verset, juste avant, Pierre demandait à ses croyants de vivre une affection fraternelle sans hypocrisie, c'est-à-dire sans porter de masque. Une affection fraternelle qui est vraiment sincère, honnête. La Bible du Semeur traduit par le fait d'aimer sincèrement, mais la Nouvelle Bible Second parle bien d'affection fraternelle sans hypocrisie. Et en fait, cette affection fraternelle et cet amour qui sont mentionnés viennent de deux mots grecs qui sont différents, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Il y a un amour philadelphia et un amour agapé qui sont mentionnés ici. Philadelphia, c'est ces liens d'affection qu'on peut avoir au sein d'une même famille ou au sein d'un même groupe ou au sein de la famille de l'Église. C'est aussi l'entraide que l'on peut s'accorder. Et si Pierre doit inviter les chrétiens à avoir de l'affection fraternelle, ça veut dire premièrement que nous sommes appelés à être en relation les uns avec les autres et que des chrétiens seuls dans leur coin, ça ne peut pas exister. Nous sommes appelés à être en relation les uns avec les autres, c'est-à-dire à vivre dans un groupe, à vivre dans une communauté croyante. Nous sommes appelés à être en lien. Et l'amour philadelphia évoque la qualité de ces liens. La communauté des croyants devrait, de par sa nature, témoigner de liens fraternels forts, sans hypocrisie, des liens authentiques. Et Paul évoque ensuite l'agapé, l'amour agapé qui est un amour plus englobant, plus large. C'est l'amour que nous nous portons aussi les uns aux autres. Mais l'amour agapé, c'est aussi l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu. Et c'est même l'amour que nous pouvons avoir dans nos relations avec des non-croyants. Vous vous souvenez que Jésus, dans le sermon sur la montagne, appelait les disciples à aimer d'un amour agapé, à aimer et même à bénir les non-croyants, et même ceux qui persécutent. Quand on parle d'amour, C'est important de savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, ce mot est tellement galvaudé. L'amour auquel pense l'apôtre Pierre, ce n'est pas un amour sentimental, tout chaud, tout douillet. Ce n'est pas non plus juste le fait de boire un café à la sortie d'un culte avec un frère ou une sœur dans la foi. C'est un amour qui est plus concret que cela. C'est un amour qui se traduit par des relations qui sont justes, qui sont authentiques, qui sont basées sur le caractère de Dieu. Ce sont des relations qui témoignent de la présence de Christ en nous. Et donc cet amour va se traduire par des gestes qui sont bienveillants, par des paroles qui sont accueillantes, par une façon d'être qui traduit le souci de l'autre. C'est un amour qui vient du fond du cœur. Et c'est un amour qui a une certaine intensité, nous dit le texte. Ce n'est pas juste une amitié occasionnelle. Ce n'est pas juste le fait de vivre les uns à côté des autres dans la paix, où l'on ne se préoccuperait pas des autres. En fait, l'amour chrétien n'est pas un amour qui est compatible avec l'indifférence. Et bien sûr, encore moins avec un esprit négatif. Cet amour agapé, Pierre n'en parle qu'une seule fois de cette manière-là. C'est dans le texte que nous avons lu maintenant, verset 22, quand il dit « Aimez-vous les uns les autres avec ferveur ». Quand Pierre s'intéresse à l'amour, il s'intéresse à la qualité des relations que nous pouvons avoir et à la manière dont on traite les autres. En fait, le chrétien ne peut plus se comporter comme il avait l'habitude de se comporter précédemment, avant qu'il ne devienne chrétien. Dans ses relations avec les autres, il se doit d'agir d'une manière juste et non d'une manière hypocrite. Ce qu'il pousse à la relation à l'autre doit venir d'un cœur qui est pur, de motivations qui sont justes. Il ne doit pas y avoir d'arrière-pensée. Et quand il y a au sein d'une communauté de l'affection fraternelle, des relations authentiques, sincères, un vrai souci de l'autre, eh bien, la communauté rayonne de l'amour de Christ. Et Pierre se préoccupe de cet amour fraternel, de cet amour agapé qui se traduit en amour Philadelphia. Parce que dans un environnement où pesaient des menaces externes sur l'Église, avant de se préoccuper des autres, il était important que la communauté soit soudée par des liens forts, des liens chaleureux, des liens authentiques. Mais peut-être que vous allez me demander, est-ce que c'est réaliste tout cela? Est-ce que l'on peut réellement vivre de cet amour-là, d'un amour si fort, si fervent? Est-ce que la réalité ne nous montre pas que souvent nous sommes en échec par rapport à cet amour qui est exigé de nous? Alors j'aurais envie de répondre d'abord que ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des difficultés à aimer que nous devons renoncer à aimer. Mais j'aimerais rajouter tout de suite après qu'il est vrai que d'aimer de cette manière-là n'est pas possible par nos propres forces. Que cet amour ne peut pas se vivre en comptant uniquement sur nos propres ressources internes. Tout comme il n'était déjà pas possible, je l'ai évoqué la semaine dernière, de devenir saint par nos propres forces comme Dieu est saint, il n'est pas non plus possible d'aimer comme Dieu aime si nous comptons uniquement sur nos propres ressources, si ça vient de notre seule volonté. En fait, l'amour doit s'enraciner dans l'œuvre de Christ. Christ qui est mort pour nous, pour que nous mourions à nous-mêmes. Christ qui est ressuscité pour que nous menions une nouvelle vie, une autre manière, que nous entrions dans une autre manière de vivre. Cet amour, il doit s'enraciner dans la puissance de transformation du Saint-Esprit. Si on veut aimer véritablement, de manière authentique, il faut que cet amour prenne sa source en Dieu et nulle part ailleurs. Pierre réfléchit à la source de cet amour. Il se demande, mais d'où vient cet amour? Il nous dit que cet amour vient du fait d'avoir été purifié, purifié par la vérité, et qu'il vient aussi du fait d'être né à une vie nouvelle. Et j'aimerais reprendre ces deux éléments. Comment aimer ? Il faut pour cela avoir été purifié, et il faut être né à une vie nouvelle. Pierre nous dit que c'est parce qu'on a été rendu pur que nous devenons capables d'aimer. Alors, on peut se demander, mais comment avons-nous été rendus purs ? Et Pierre nous donne là aussi deux réponses. Au verset 2, il nous disait déjà que la purification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais au verset 23, il nous dit que la purification, c'est l'œuvre de la parole. Et en fait, l'Esprit et la parole vont toujours ensemble. L'Esprit n'agit pas indépendamment de la parole. Et c'est par la parole que l'Esprit agit pour nous purifier. L'Esprit n'est pas déconnecté de la parole. C'est le Saint-Esprit qui vient nous transformer par la puissance de la parole. Et c'est ce qui s'est passé pour les chrétiens à qui Pierre écrit. Avant qu'ils ne deviennent chrétiens, ces gens étaient dans des temples païens, ils adoraient des divinités païennes. Mais quand ils ont été en contact avec l'Évangile, avec la vérité de la parole, qu'ont-ils fait ? Ils se sont détournés de leurs idoles, de leur culte de néant, pour se tourner vers le Dieu véritable. Ils se sont détournés de leur idolâtrie et Dieu leur a pardonné. Il les a purifiés de leurs fautes. Et grâce à cette purification, ils ont été rendus capables d'aimer. Comment ont-ils été purifiés ? En accueillant la vérité de la parole et en obéissant à cette vérité qu'ils ont reçue. Pour essayer d'illustrer cela, prenez l'exemple d'un mari qui serait rude avec son épouse, qui la maltraiterait, qui ne lui donnerait pas forcément de quoi vivre, et peut-être même qui lui serait infidèle. Eh bien, si cet homme est mis au contact de la parole de Dieu, qu'il est mis au contact de la vérité de cette parole, que sa vie est donc transformée, il ne va plus agir comme il agissait, parce qu'il va comprendre ce qu'est l'amour. Et Dieu va lui donner la capacité d'aimer. En fait, la vérité de l'Évangile va amener cet homme à comprendre qu'il doit agir différemment. Et cette vérité va le purifier dans sa conduite. Et quand quelqu'un obéit à la vérité, Pierre nous dit qu'il se purifie au contact de cette vérité. Sa vie change. Il devient capable d'aimer, d'avoir une vraie affection fraternelle. Il n'a plus besoin de faire semblant d'aimer. Il n'a plus besoin de porter un masque, de jouer la comédie. Il peut désormais aimer sincèrement, de manière authentique, sans hypocrisie. Mais Pierre ajoute quelque chose. Il dit, il ne suffit pas d'avoir été purifié ou d'avoir été rendu saint pour être capable d'aimer. Il faut aussi qu'il se passe un vrai miracle. Le miracle de Dieu, le miracle de la vie nouvelle. Il faut que Dieu nous donne une nouvelle vie pour que nous vivions autrement. Sans la vie de Dieu, nous sommes incapables d'aimer comme Dieu aimerait qu'on puisse aimer. Et cela passe par une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est l'idée d'une régénération, d'une recréation, d'une transformation de tout notre être. Lorsqu'on régénère un organe, par exemple, on cherche à reconstituer les tissus organiques. Quand on régénère quelque chose, quand on régénère une substance, on rend à cette substance ses propriétés initiales. Eh bien, la régénération, au sens biblique du terme, c'est le fait de rendre à l'humain sa nature première, authentique, dépouillée du péché. C'est le fait qu'il soit restauré dans son image de Dieu. Et cela, personne ne peut le faire par lui-même. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le miracle de Dieu. Quand j'étais adolescent, j'ai eu l'occasion de faire partie d'un groupe chrétien les compagnons de Daniel, et nous étions allés un jour faire de la spéléologie. Il n'y avait pas très loin de là où j'habitais une grotte que personne ne connaissait parce que ce n'était pas une grotte ouverte au public. Mais avec notre guide, eh bien nous avons pénétré un boyau, nous avons dû aller à plat ventre, on n'y voyait rien et assez longuement on est qui a été formé par l'eau et le calcaire. On avait nos lampes de poche pour essayer de voir ce qui se passait. Et quand nous sommes ressortis de la grotte, notre moniteur a fait une photo dont j'ai gardé la trace. Nous étions couverts de boue, de la tête aux pieds. Nous étions sales au point de ne plus nous reconnaître. Nous étions vraiment très sales. Il a bien sûr fallu que l'on change de vêtements, que nous les enlevions, que nous en mettions des autres. Il a fallu, bien sûr, se laver pour redevenir propre. Mais une fois que nous étions dehors et que nous étions lavés, que nous étions propres, il fallait bien sûr plus retourner dans la grotte. Il fallait vivre désormais dans la lumière du soleil éclatant, et non plus à la lumière artificielle de nos lampes de poche dans la grotte. Il fallait que nous soyons debout, dehors, et non plus à ramper dans la boue. Eh bien, la vie nouvelle que Dieu nous donne, c'est un peu cela. Il nous fait sortir de notre boue dans laquelle nous rampons, dans l'obscurité, pour nous amener dans la véritable lumière, où nous pouvons nous tenir debout, régénérés, prêts pour une autre vie, plus la vie sous terre, mais la vie sous le soleil radieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Une vie nouvelle qui est impérissable, nous dit Pierre. Une vie nouvelle qui est immortelle. Pierre écrit au verset 23, « Vous êtes nés à une vie nouvelle. » Immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En fait, par sa semence, l'homme ne peut pas se donner lui-même une nouvelle vie. Il faut qu'il y ait une autre semence qui vienne ensemencer sa vie pour qu'il y ait production d'une nouvelle vie. Et cette autre semence, c'est la semence de la parole. Quand la parole est semée, elle produit la vie. Un peu comme une graine que vous avez dans votre jardin, que vous plantez, celle-ci va germer. La plante va grandir, une fleur va éclore. Mais dans le monde naturel, ainsi va la vie, la fleur va faner, et un jour la plante va dépérir. C'est ainsi aussi que va la vie humaine. Mais la semence dont il est question ici, la semence de la parole, c'est une semence d'une autre nature, qui produit une vie qui ne va jamais se flétrir, qui produit une vie immortelle, incorruptible, impérissable. Quand Dieu sème par sa parole et que cette semence entre dans notre vie, sur le terrain de notre vie, eh bien, cette semence est capable de remettre à neuf ce qui avait été détruit. C'est une semence de qualité éternelle qui suscite une vie éternelle. Vous savez, Dieu est capable de faire ce miracle d'une vie nouvelle. Mais lui seul peut le faire. Il est capable de recréer, de remettre à neuf ce qui a été abîmé. Et comment le fait-il ? Par sa parole. La parole de Dieu est une parole qui agit. C'est une parole qui transforme. C'est une parole qui rend capable d'aimer. La parole de Dieu, c'est une parole d'espérance. C'est une parole qui produit notre salut. C'est une parole qui annonce la délivrance qui est encore à venir, la délivrance finale. Cette parole, elle est contenue dans les 66 livres de la Bible. Elle est vivante, cette parole. Elle vient à nous. Elle nous confronte à la vérité de Dieu. Et si nous ne la lisons pas, si nous ne la méditons pas, si nous ne nous l'approprions pas dans nos vies, elle n'aura pas ce pouvoir de transformation. Donc, si le miracle d'une vie nouvelle est le fait de Dieu, nous avons quand même notre part à jouer, qui est celle d'accueillir cette parole et de la laisser porter son fruit, de se développer dans notre vie. En résumé, Pierre nous dit que pour être capable d'aimer de manière authentique, il faut premièrement avoir été purifié en obéissant à la vérité de la parole. Et puis deuxièmement, il nous faut avoir reçu une nouvelle vie parce qu'avec notre ancienne vie, nous ne sommes pas capables de cet amour-là. J'arrive à mon deuxième impératif, qui va être un peu plus bref. Il se situe au début du chapitre 2. Ce deuxième impératif dit « rejeter toutes les formes de méchanceté ». Si nous laissons la parole agir en nous et produire cette nouvelle vie en nous, alors il y a quelque chose que nous devons faire dans notre vie. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous éloigner de cette vie nouvelle, de tout ce qui pourrait nous ramener à nos anciennes manières de fonctionner. Et c'est pour cela que Pierre demande aux chrétiens de déposer toute forme de méchanceté. Il faut déposer nos colères, nos frustrations, nos jalousies, nos calomnies, nos critiques, nos commérages. L'idée de déposer nos méchancetés à un endroit, c'est l'idée de s'en débarrasser, de les laisser là et de ne plus y revenir pour mener une autre vie, débarrasser de ses habitudes mauvaises. Il y a trois termes qui sont utilisés ici pour décrire ce qui est malfaisant ou ce qui est vicieux. Premièrement, Pierre parle d'hypocrisie, et puis ensuite d'envie ruineuse, et enfin, le fait de se laisser aller à la médisance. L'hypocrisie, c'est ce qui consiste à faire croire que tout va bien dans la relation, alors qu'au fond de nous, il peut y avoir des sentiments de colère, d'amertume, peut-être même de haine à l'égard de la personne avec laquelle nous sommes en relation. Or, Dieu nous demande d'avoir un vrai amour, un amour sincère. Et pour avoir un amour sincère, il faut avoir un cœur qui est pur. Il ne peut pas sortir quelque chose de pur si dans le cœur, il y a de l'impureté. Il faut donc se débarrasser de tout ce fatras qu'il y a en nous et qui empêche d'arriver à une vraie relation authentique. Dieu demande à ce que nous ne soyons pas dans le paraître, mais vraiment dans l'être. Il demande que notre amour dont nous devons nous débarrasser, dit Pierre, ce sont nos envies, nos désirs malsains, tout ce qui nous pousse à jalouser les succès d'autrui. Et finalement, quand on jalouse le succès de l'autre, on se morfond souvent sur soi. On s'apitoie sur soi-même. On pense que les autres n'ont pas été assez justes à l'égard de nous-mêmes. Qu'on n'a pas été reconnu à notre juste valeur. Et cela nous amène à la troisième catégorie, celle de la médisance. Quand on pense que les autres n'ont pas été justes avec nous-mêmes, que l'on s'apitoie sur soi, on en vient à critiquer, à médire. Et c'est une chose que nous ne devrions pas rencontrer dans le peuple de Dieu. Ces paroles qui visent à discréditer autrui, qui visent à nuire dans le but inavoué de se grandir soi-même. En fait, toutes ces attitudes, tous ces comportements sont l'exact contraire de ce qu'est l'amour, un amour vrai et sincère. Et si nous nous laissons aller à ces comportements-là, cela va forcément nuire à la qualité des relations fraternelles. Ça va endommager la vie communautaire. C'est vrai que ce n'est pas facile de vivre un amour vrai, authentique. C'est vrai que c'est une exigence réelle, une exigence qui découle de la volonté de Dieu qui veut que nous soyons un peuple saint. Mais si nous voulons être en mesure d'aimer, nous devons d'abord recevoir la parole. Et puis nous devons ensuite nous débarrasser, avec l'aide du Saint-Esprit, nous devons nous débarrasser de tout ce qui nuit aux relations. Nous devons chercher à régler nos litiges, nos animosités. Et nous devons demander à Dieu cette capacité à aimer en vérité, de manière sincère, de manière authentique. Le troisième impératif, qui sera aussi le dernier, que l'on trouve dans ce texte, dit ceci, « Désirez ardemment le lait pur de la parole ». Très exactement, Pierre dit ceci, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin... » Il est question ici, né. Et quelle est la première chose qu'un nouveau-né va faire quand il vient au monde, après qu'il ait poussé son premier cri? Quelle est la première chose qu'il va faire? Je n'entends pas vos réponses, mais j'imagine que vous savez tous que la première chose qu'il va faire, c'est aller chercher le sein de sa mère. Et il va aller prendre le lait, se nourrir du lait de sa mère. Parce que pour grandir, pour vivre simplement, ce jeune bébé, ce nourrisson, a besoin de boire. Le lait de la maman contient tous les nutriments qui sont nécessaires pour ses besoins. Et Dieu est un Dieu absolument formidable parce que la qualité du lait va se modifier au fur et à mesure que l'enfant va grandir selon les besoins qui correspondent à son étape, à son stade de développement. Dieu fait en sorte que le lait de l'enfant se modifie et qu'il devienne de plus en plus substantiel, plus il grandit. Eh bien, il en va de même pour nous, croyants. Nous recevons aussi le lait qui nous permet de vivre, parce que sans ce lait-là, nous mourrions. Mais Dieu nous donne ce lait pour vivre, le lait de la parole. Ce lait qui va nous permettre de grandir. Et plus nous grandissons, plus ce lait va se modifier dans sa qualité pour que nous soyons toujours encore nourris. Pour le nouveau-né, le lait de la maman, c'est vraiment juste une pure bénédiction. Et pour nous aussi, le lait de la parole, c'est une vraie bénédiction. Parce que ce lait va nous permettre de grandir dans notre foi. Il va nous permettre de rester en bonne santé spirituelle. Et en bonne santé pour toujours, éternellement. Et c'est là la grande différence entre le lait qui permet au bébé de grandir et le lait de la parole. Le bébé qui va grandir va un jour devenir adulte, vieillir et mourir. Mais le croyant qui reçoit le lait ne va jamais mourir. Parce que la vie qui est procurée par ce lait, c'est une vie éternelle. Une vie qui est impérissable, qui va demeurer pour toujours. Et une vie qui va nous faire entrer dans le salut de Dieu. Pierre dit, désirez ardemment ce lait pur de la parole. Désirez ardemment ce lait pur de la parole. Ayez aussi soif qu'un nouveau-né. Continuez de lire chaque jour l'Écriture pour être nourri de la parole de Dieu, cette parole qui fait vivre. Parce qu'on ne peut pas grandir et mûrir par soi-même. Ce qui nous fait grandir et mûrir dans la foi chrétienne, ce sont les aliments que l'on absorbe. Et ces aliments, c'est le lait pur de la parole. Or, certains exégètes n'ont vu dans ce lait de la parole que les 66 livres de la Bible. Bien sûr, et je l'ai dit, c'est très important de se nourrir de cette parole. C'est-à-dire de lire la Bible, d'écouter des prédications. Mais il me semble que Pierre veut dire encore quelque chose de plus ici. Se nourrir du lait pur de la parole, c'est se nourrir de tout ce qui est vrai, de tout ce qui nous fait grandir dans la nouvelle vie que Dieu nous offre. Il leur dit juste après, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Quand vous êtes devenus croyants, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Et Pierre cite là le psaume 34. Mais il leur dit, n'en restez pas à cette expérience de la conversion. Allez plus loin maintenant, grandissez dans votre foi. Et pour cela, nourrissez-vous du lait de la parole. Refusez tout ce qui va nuire à l'amour. Nourrissez-vous de ce qui est vrai, de ce qui est pur, de ce qui va réellement vous construire dans votre identité de fils et de fille de Dieu. Et puis, adoptez désormais des attitudes, des comportements qui sont en cohérence avec votre nouvelle vie. Allez vous alimenter à cette source de vie qui se trouve en Christ et dans sa parole. C'est Christ qui vous soutiendra. C'est lui qui vous donnera vraiment la capacité d'aimer. Amen.